Canal FM.
Switching on the radio, looking up to the sound. It's not my colors. This is my new generation. Switching on the radio, looking up to the sound. It's not my colors. This is my new generation.
Le club de la presse, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 11h sur Canal FM.
Beaucoup de choses ont évolué, mais il reste des défis à relever.
Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux, qu'est-ce qu'il y a de plus riche pour l'homme, l'être humain, que la liberté?
Ce dépotoir a été fermé parce que
nous mettons l'accent sur la couleur du bon miel. Des gens se posent cette question.
Tous les services qui accueillent,
on ne voit pas circuler les bêtes comme ça.
Ils sont censés défendre la veuve et l'orphelin.
Et quand il y a quelque chose, votre carrosserie, c'est votre peau.
Donc du coup, je pense véritablement que
il faut pas perdre du temps sur des revendications, excusez-moi, qui n'en valent pas la peine.
Les gens se lèvent le matin à 7h, ils disputent la route avec les gros camions.
Les surcharges sur les tricycles, on en voit tous les jours.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Canal FM.
Très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. Le président de la République, Faure Gnassingbé, a procédé hier à la nomination de 9 nouveaux préfets par décret présidentiel. Ces désignations marquent une réorganisation stratégique dans l'administration territoriale du pays. Il s'agit de Ourumila pour la région, la préfecture de Thône. Le colonel Bonfo Faré est désormais chargé de la préfecture de la Kosa dans le Tsaoudzo. C'est Timbianza Yendouakoa qui a été nommé pour diriger cette préfecture. Bien sûr, la préfecture de Logou sera dirigée par Ekpe Kodzo Agbeko Gadewa Mawena, occupera désormais la fonction dans la préfecture de Zio. Agwenyeve est désormais dirigée par le préfet Tinaka Wediambalo Kossi, et puis le Golfe sera dirigé désormais par Agbodan Kossivi. Nous parlerons alors de tout cela, bien sûr, alors dans cette émission Club de la Presse de ce jeudi. Nous aborderons certainement d'autres sujets liés à l'actualité, tels qu'évoqués par des journaux parus ce matin. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Coco, Vitor Betomega est à la mise en onde. Jérôme Dakuta assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nehor, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapao. Vous avez aussi ce privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. L'homme de la presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain et aussi du monde entier. C'est avec nos confrères journalistes en studio, avec moi, Ambroise Pondo, bonjour.
Oui, Pascal, bonjour. Bonjour les confrères ici présents. Bonjour ceux qui nous suivent depuis la diaspora, à l'intérieur du pays, et ceux de Lomé. Je profite pour saluer ceux qui sont au niveau de la direction des transports routiers, au niveau de la SAFER, au niveau de la DSR. Et je voudrais aussi profiter pour envoyer ce message à qui de droit.
Rapidement.
Concernant un bâtiment qui serait en état de défectuosité avancée, je crois. Je l'ai vu sur WhatsApp, mais c'est une dame qui est revendeuse du marché qui m'a envoyé un message hier, comme quoi il y a un grand bâtiment là, dont on leur avait dit de l'évacuer à la va-vite, et pour des raisons que j'avais évoquées au départ. Et donc, la dame se plaint. Où est-ce qu'elles iront maintenant pour aller vendre? Donc, ce message-là doit aller à qui de droit? À la direction de l'EPAM? Oui. D'accord. Pour trouver une solution à cette situation.
D'accord, merci beaucoup, Ambroise Kondro, d'avoir répondu à notre invitation. Michel Yaoutsadza, bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère que tu vas bien.
Non, ça va.
On se retrouve,
la grâce de Dieu.
Je pense que vous nous avez manqué quand même au club pratiquement au début alors de cette année. Vous avez manqué déjà deux séances, c'est ça?
Oui. On est là maintenant.
D'accord.
Oui.
C'est l'essentiel.
Oui.
Merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'est avec plaisir.
D'accord, avec plaisir, bien sûr. Alors, nous allons parler culture au début alors de cette émission. Et c'est avec, nous allons parler alors de ce festival Kinté. Et c'est avec Monsieur Ohin Kwam. Monsieur Ohin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dignitaire du trône royal à Digo et Allier et également du trône de Denou au Ghana. Et vous êtes l'un des responsables alors de ce festival Kinté qui se tiendra ce samedi 25 janvier à Green Palace sur la voie bien sûr d'Adido Gomé. Alors concrètement, quand on parle alors du festival Kinté, c'est quoi?
Ok, merci beaucoup de me faire l'honneur de me recevoir dans votre studio en cette fin de matinée. D'abord, souffrez que je rende hommage au promoteur de cet événement qui est Nana Kobina Fautrois, qui est ici, qui est le représentant du trône de Cape Coast ici au Togo. Voyez-vous, il est né ici, il a fait ses études ici, il était fonctionnaire dans une institution sous-régionale de la place. Mais comme cela se fait de coutume, quand il a fallu choisir un représentant du trône là-bas à Cape Coast, la tradition a voulu que le choix se porte sur lui. Donc il est ici, et il représente le trône de Cape Coast ici. C'est lui qui m'a fait l'honneur de m'associer à ce projet qui lui tenait tant à cœur. Et voilà, c'est ce qui me conduit aujourd'hui dans votre studio.
D'accord.
De Canal FM.
Oui, mais justement, la question qui a été posée concernant surtout le festival Kinté. Alors, d'abord, l'idée vient d'où?
Ben, nous avons fait le constat selon lequel il y a une rupture qui est intervenue entre nos populations et notre propre identité culturelle. Ça, c'est la première motivation. Ensuite, vous savez, tout est prioritaire pour l'État. Il y a les routes, il y a l'éducation, il y a la santé, etc. Et nous nous sommes dit à notre modeste niveau, quelles contributions pouvons-nous apporter à la jeunesse? Vous savez, comme le disait un illustre chef d'État, aucun sacrifice n'est trop grand pour la jeunesse. Que pouvons-nous faire concrètement? Alors, nous qui sommes impliqués dans la tradition et dans la chefferie traditionnelle, pour nous, le Kinté constituait un vecteur, constituait un canal par lequel la jeunesse peut trouver des débouchés. C'est ça également qui nous a motivés, n'est-ce pas, à initier ce projet-là, qui est une première et qui va se dérouler le samedi prochain à Lomé.
D'accord. Alors, c'est quoi la symbolique alors de Kinté en pays africain, en l'occurrence chez les peuples éminents?
Ben, la symbolique, le Kinté d'abord est synonyme de noblesse, et de, c'est également synonyme d'excellence. Voyez-vous, c'est synonyme d'excellence, et ce symbolisme-là a été transposé dans la culture afro-américaine, hein, si vous permettez que je fasse un peu le parallèle. Voyez-vous, les professeurs d'une certaine université aux États-Unis, par exemple, quand ils portent leur toge, il y a toujours une écharpe de Kinté autour. Je pense que sur notre université aussi, nous observons hein, le même accoutrement. Donc il y a cette symbolique-là de la noblesse, de l'excellence. Et surtout, il y a également cette notion métaphorique que l'on retrouve à travers les pain kente, parce qu'il y a différentes sortes de pain kente. Et chaque pain kente véhicule une histoire à travers des métaphores.
Alors aujourd'hui, parlons de l'organisation. Et quel est l'état des lieux de l'organisation lors de cet événement, de ce festival Kinté?
Ben, je peux, en toute honnêteté intellectuelle, vous dire que nous sommes prêts à 90%. Il reste toujours des petits détails à fignoler et nous sommes toujours ouverts à toute proposition qui pourra concourir à aller dans le sens à ce que les choses soient bien faites. Ce jour-là, ce samedi qui vient.
D'accord. Alors concrètement, allons peut-être, hein, projetons-nous un tout petit peu dans la journée de samedi déjà. Qu'est-ce qui sera fait au cours de cette journée, dans le cadre alors de ce festival?
Bien. Alors, tout naturellement, on commencera par la cérémonie d'ouverture, qui aura lieu à 10h. Ensuite, il y aura la visite des stands. Et au nombre des stands, il y aura un qui sera carrément consacré au port du Kinté. Comment est-ce que le Kinté se porte? D'accord? Quand on dit stand, il y a exposition et vente. Il y aura également la dégustation des mets locaux et des friandises locales. Et toute la journée sera animée par des groupes folkloriques du Ghana, du Togo, etc. Et dans la journée également, on aura une conférence. Et pour cette conférence, nous avons été chanceux qu'un professeur d'un standing certain, d'un certain rang, ait bien voulu l'animer. Il s'agit du professeur Goué Akwe, qui a trouvé notre projet pertinent et qui a bien voulu nous donner un petit coup de pouce pour la première édition, donc il sera là. Et le thème, c'est l'origine ou l'historique du pain kente, n'est-ce pas, et son impact sur le plan culturel et socio-économique. Ce sera le thème de cette conférence-là. Et à la fin de la journée, à partir de 19h30, nous aurons le dîner de gala. Et conscient de la situation que nous vivons, hein, durant le mois de janvier, après la fête, où on parle généralement de janviose, nous avons veillé à ce que l'accès soit, hein, à faciliter, en fixant des prix hein, qui sont, je pense, abordables aux citoyens lambda. Alors, comme c'est un dîner de gala, avec tout ce que cela peut renfermer comme package, pour solo, si vous êtes seul, ce sera à 30 000 francs, d'accord? Et si vous êtes à deux, je n'aime pas parler de couple, parce que vous pouvez venir avec un ami. Donc, si vous êtes à deux, ce sera à 50 000 francs.
D'accord. Ok. Alors, c'est quoi vos attentes pour cet événement? C'est-à-dire, quand on terminera, cet événement, c'est quoi les résultats attendus?
Bien. Le premier résultat que nous souhaitons avoir, c'est réconcilier un peu le citoyen lambda avec sa propre identité culturelle. Ça nous tient beaucoup à cœur, ça. Nous voulons également mettre en vitrine les tisserands et les artisans. Parce qu'il n'y a pas que le kente, les gens ne voient que le pain kente. Mais il y a beaucoup de choses autour. Il y a les perles, il y a les chaussures royales, il y a les brassards, et il y a beaucoup de choses qui entourent le kente. Et tout ce monde-là doit être mis en vitrine, c'est très important.
D'accord. Alors, nous allons parler un peu des perspectives. Dans 10,
20 ans, comment vous entrevoyez déjà ce festival?
Ben, permettez-moi de vous dire que nous voyons grand. Nous sommes ambitieux, nous ne sommes pas prétentieux, mais nous sommes ambitieux et nous voyons grand. Dans 10, 20 ans, dans notre entendement, ce festival doit regrouper des pays de la sous-région, comme c'est le cas en ce moment, où on a commencé par le Ghana, où il y a des rois, des têtes couronnées qui vont arriver du Ghana, avec en tête le chef suprême de Cape Coast, qui sera là, qui va conduire la délégation lui-même. On pense également qu'on aura la participation de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Nigeria, partout où le Kente se porte. Et à cet effet, je pense que nous devons d'abord commencer par protéger le Kente. Je m'explique. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays asiatiques qui reproduisent le Kente. Hein? Mais les motifs, nos tisserands, nos pauvres tisserands qui ont réussi à... Parce que pour tisser un pain Kente, c'est extrêmement difficile. Quand vous ratez un motif, vous recommencez tout de A à Z. Alors ceux qui ont pensé à cela et qui ont inventé ces motifs-là, il faudrait quand même qu'ils soient protégés. Et une fois qu'on aura protégé ce motif-là, hein, sur le plan intellectuel, on verra comment nous pouvons résolument nous inscrire dans une dynamique d'intégration de la sous-région.
D'accord. Alors, c'est vrai que nous allons finir notre entretien, mais j'ai cette question de curiosité à vous poser. Déjà, jusqu'à présent, combien vous coûte l'organisation même d'ailleurs de ce festival?
Bien, c'est une question très pertinente. C'est vrai que c'est une première édition, donc les sponsors potentiels sont un peu frileux. Mais il y a quand même des bonnes volontés. Il y a des gens qui croient en notre projet et qui nous aident. Donc, c'est pas évident et nous espérons toujours qu'il y aura des gens qui vont nous accompagner pour que cela se passe bien.
Mais est-ce que actuellement vous avez des sponsors?
Nous avons des sponsors qui se sont annoncés et nous avons plutôt des mécènes. On a un ou deux sponsors ici, et puis nous avons surtout des mécènes qui ont bien voulu mettre la main à la pâte en croyant fermement en notre projet.
D'accord. Pour mettre fin à cet entretien, quel est votre mot de la fin?
Ben, notre mot de la fin, nous lançons un appel à tous ceux qui croient en ce projet-là de venir nous aider. Quand je parle d'aide, quand je parle d'assistance, assistance multiforme, nous sommes... Et l'une de ces formes-là, c'est nous sommes ouverts à toutes les propositions qui iront dans le sens d'une réussite de cet événement qui est une première dans l'espace culturel togolais.
D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Ohin Kwan.
C'est moi qui vous remercie.
D'être passé alors dans cette émission. Je rappelle que vous êtes dignitaire du trône royal à Digo et allié et du trône de Denou au Ghana. Merci d'être passé dans cette émission.
Le plaisir était mien.
D'accord. Merci beaucoup. Et sans transition, nous passons également à un autre invité. C'est Monsieur Awissi Divina Esso. Monsieur Awissi, bonjour. Alors, vous êtes chef division assainissement et environnement au Golfe 4, c'est-à-dire bien sûr au niveau de la mairie Golfe 4. Et au niveau de la mairie, vous avez lancé même un projet. Et ce projet concerne plus alors les ghettos. Et le projet est intitulé « Zéro ghetto à la plage du Golfe 4 ». Alors concrètement, comment cela va-t-il se passer?
Qu'est-ce qui nous a motivés à initier ce projet? Ce que nous avons constaté que au niveau de la plage du Golfe 4, il y a de l'insécurité. À partir de 18h30, tu ne peux pas t'aventurer à la plage. Alors que la plage, c'est un lieu de loisir et que tout le monde peut aller se rechausser. Et donc, pour éviter que cette insécurité grandisse, le maire a finalement décidé de mettre en place ce projet-là qui permettra d'abord, dans un premier temps, de sensibiliser les occupants. Il y a certaines baraques qui sont installées à la plage et dedans, c'est la vente des stupéfiants, la vente des drogues. Et là, c'est ça qui a permis au maire d'initier ce projet-là. D'abord, nous commençons par la sensibilisation. Aujourd'hui, nous sommes en train de sensibiliser et de remettre en même temps des mises en demeure pour demander à ses occupants de libérer les lieux.
D'accord. Mais est-ce que vous avez pu faire l'état des lieux pour savoir exactement il y a combien de ghettos au niveau de la plage de Golfe 4 et pour mieux faire le travail?
Oui, au début, nous avons fait l'état des lieux. On a recensé une centaine de ghettos. Et entre-temps, il y a eu l'action des forces de l'ordre qui a essayé de détruire certains ghettos. Mais actuellement, ils reviennent. Et c'est ça qui a attiré l'attention du maire, qu'il faudrait qu'on réagisse vite pour que ces ghettos ne se réinstallent plus.
D'accord. Et concrètement, comment la sensibilisation se fera sur le terrain?
Sur le terrain, ce que nous sommes en train de faire, nous avons d'abord passé pour identifier les ghettos. Et actuellement, nous leur demandons de quitter, de libérer les lieux. Avant d'occuper la plage, il faut une autorisation. Du moment où vous n'avez pas l'autorisation et les activités que vous menez sont prescrites par la loi, nous les demandons de libérer les lieux au plus tard le 3 février 2025.
Le 3 février, c'est pratiquement
dans une semaine. Oui.
Alors, est-ce que déjà avec, puisque ces gens-là aussi sont des citoyens, les citoyens et les habitants également, alors de votre territoire, du territoire alors de Golfe 4, mais je ne sais pas s'il y a peut-être alors des moyens alternatifs que vous avez pu également pris pour que ces gens-là soient reversés plutôt alors dans une autre activité.
Et pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Puisque c'est des gens qui occupaient que la gendarmerie et la police a déguerpi et qui reviennent.
Souvent, ils reviennent.
Et c'est pourquoi, lors de ce projet-là, nous avons associé les comités de développement des quartiers, nous avons associé les chefs traditionnels. Et donc, ils connaissent leur population. En fait, c'est des gens qui habitent les quartiers. Et pour un petit problème de famille, ils préfèrent aller à la plage. Et comme ils sont motivés par la prise des stupéfiants, et là, ils rentrent dans un autre club de gang.
Mais si s'il arrivait que vous procédiez encore à ce projet, qu'ils reviennent toujours, quelles sont les mesures ou les dispositions qui sont prises?
Il y a déjà des dispositions qui sont prises puisqu'il y a une entreprise qui s'occupe de l'assainissement de la plage et du gardiennage à la plage. Et donc, normalement, il faut mettre à zéro avant que l'entreprise ne puisse travailler. Et puisque dans le cahier de charge, on a demandé à l'entreprise, dès qu'il y aura encore un ghetto après ce déguerpissement, c'est l'entreprise qui sera pénalisée puisqu'elle a la sécurité pour le faire.
Alors, ce qui concerne alors la sensibilisation et les travaux alors de terrain, qui sont maintenant ces agents alors de mairie, comment surtout les identifier sur le terrain?
Vous voyez que j'ai porté un gilet.
Tout à fait.
Les agents de la mairie sont identifiables par les gilets Golfe 4. Il y a aussi les forces de l'ordre qui nous accompagnent et ils sont en tenue. Voilà.
Si vous avez un message à l'endroit de ces gens-là qui vous écoutent, puisque là aussi il faut la collaboration, surtout aussi de la population, pour que la sensibilisation puisse passer, ou le message puisse passer, j'allais dire. Et si vous avez un message à l'endroit des populations, qu'est-ce que vous allez leur dire?
Bien, le message que nous pouvons passer, c'est que très bientôt, l'insécurité va diminuer à la plage. Très bientôt. Puisque comme nous travaillons en collaboration avec la gendarmerie et la police. Et c'est des acteurs qui vont nous accompagner dans ce projet-là. Et en permanence, ils feront la ronde avec notre entreprise qui est sur le terrain. Nous allons pallier à ce problème d'insécurité à la plage.
Mais déjà, à ce micro, c'est un canal également pour vous, alors de sensibiliser ceux qui sont même d'ailleurs des auteurs ou des acteurs directs, même d'ailleurs, ou qui sont des occupants de ces ghettos. Qu'est-ce que vous allez dire aussi à ces occupants?
Voilà, ce que je vais dire à ces occupants, Et rien n'est tard dans la vie. Ils peuvent se refaire. Et cette vie qu'ils sont en train de mener là-bas ne les amène nulle part. Plutôt, vous voyez dans le Golfe 4, par exemple l'année passée, 2024, nous avons eu 47 corps inconnus, découvertes de corps inconnus. Et ces inconnus-là, c'est souvent à la plage. C'est souvent à la plage. Après la prise des stupéfiants, ils se font de mal et tout ça là. Et donc, c'est pour leur dire, ils peuvent se refaire.
C'est encore possible.
C'est encore possible.
Une deuxième vie.
Une deuxième vie.
D'accord. Merci voilà, beaucoup. Merci. Monsieur Awissi, Divinant et So, et merci d'être passé alors dans cette émission. Je rappelle que vous êtes chef division assainissement et environnement au Golfe 4. C'est bien ça?
C'est bien ça. C'est moi qui, plutôt de vous remercier.
Merci beaucoup. Merci et beaucoup. Bonne journée chez vous.
Merci.
Voilà. Alors, nous revenons en plateau, chers confrères, pour et rapidement continuer alors notre débat ici au Club de la Presse. Et Jean Legrand Polérini, bonjour.
Bonjour, confrères en studio, à toutes celles et ceux qui nous écoutent sur Canal FM.
J'espère que vous allez bien.
Tout va bien, par la grâce de Dieu. Bonne et heureuse année 2025 à tout le monde, vu que c'est ma première fois. Je ne saurais déroger à la règle de présenter mes meilleurs voeux à toutes celles et ceux qui nous écoutent, également à toi Pascal, que cette année nous soit fructueuse et que nous prenions les bonnes décisions parce que c'est à nos résolutions que répondra le succès. Il ne sert à rien de faire des voeux si on ne met pas en pratique.
C'est ce que dit l'écriture sainte.
Effectivement, moi je voudrais dire que c'est notre planification qui fera que l'année 2025 sera meilleure.
Et l'homme Kossi Atisobe, bonjour.
Bonjour, bonjour Pascal, bonjour à tous les confrères, bonjour à toutes et à tous.
J'espère que vous allez bien.
Oui, ça va, par la grâce de Dieu, ça va.
D'accord. Alors, on commence ce débat avec ce premier sujet que j'annonçais d'ailleurs dans mes mots introductifs concernant la nomination ou la désignation même d'ailleurs de 9 préfets sur toute l'étendue du territoire national. C'est vrai que ce qui a plus attiré l'attention et qui a fait polémique ou fait débat plus alors sur la toile ou sur les plateformes, c'est bien sûr au niveau de la COSA où le colonel Bonfo Faré qui remplace désormais le colonel j'oublie un peu son
Bakalé.
Nom. Bakalé, bien sûr. Mmh. Alors, c'est vrai, quelle analyse vous faites même d'ailleurs de cette désignation, Michel?
Non. De la désignation de...
Oui, de tout, je veux bien parler de tout.
Non, c'est, il faut dire que c'est le chef de l'État qui nomme les préfets. Et il a plu hier d'échanger certains parmi eux. Donc, il n'y a pas de commentaire particulier, parce que, bon, s'il avait changé tous les préfets, peut-être on aurait de la matière. Comme c'est certain, il a changé. Bon, c'est vrai que parmi ceux qui partent, il y en a qui sont là il y a plus d'une décennie. Il y en a qui n'ont pas fait aussi un long temps. Bon, dans tous les cas, tu as parlé de la COSA. C'est vrai que le monsieur a fait plus de 10 ans là-bas. Ça doit faire 12 ou 13 ans par là qu'il est préfet. En tout cas, ce qu'on note aujourd'hui, c'est qu'il a pu faire ce qu'il pouvait. C'est celui qui l'avait mis là-bas qui a décidé l'enlever. Bon, il n'y a pas de péril en la demeure.
D'accord.
Seulement, nous souhaitons que ceux qui sont arrivés puissent aussi faire leur part, puissent faire ce qu'ils peuvent contribuer pour le développement. Surtout, ces derniers mois, parce que si tu le permets, avec les conseillers municipaux, notamment les maires, et avec les conseils régionaux, avec les gouverneurs et tout, c'est que il y aura une approche nouvelle dans la gouvernance locale, puisque c'est des autorités, en tout cas décentralisées, qui dirigeaient les préfectures. Donc il faut quand même que maintenant, avec tout ce monde-là, que chacun puisse savoir la ligne qui est tracé pour lui, pour pouvoir travailler. Parce que les gens, dans l'opinion, les gens se posent la question. Que font les maires? Que font les conseils régionaux? Que font les gouverneurs? Que font les préfets? Bon, mais dans tous les cas, nous savons qu'il y a des tests qui encadrent tout cela. Et disons que on souhaite bon vent.
D'accord, merci beaucoup, Michel.
À ceux qui viennent d'arriver.
D'accord, merci, merci beaucoup. Oui, Ambras, finalement, c'est dans l'ordre normal des choses, la nomination à l'ordre de ces préfets.
Oui, je crois que il y avait eu plusieurs moments où certains postes de préfets étaient vacants et était urgent de les remplacer, surtout au niveau du Golfe, qui est la plus grande des préfectures, et à Guenivé, dont l'occupant était devenu ministre entre-temps. Et donc, il a profité pour évacuer certains. Et le préfet de la Causa, certains disent qu'il a déjà fait 10 ans, il est pratiquement le président de la région de la Cara, le gouverneur d'Aï, dépasse même le gouverneur, le tout-puissant. Il y a d'autres noms. Et il y a aussi des réactions qu'on a sur les réseaux sociaux. On ne va pas tout prendre en compte. Mais la réalité, c'est que certains se demandent, est-ce que certains de ces préfets maîtrisent les réalités de des milieux? C'est vrai que nous sommes dans une configuration géopolitique.
Même question s'est posée pour les gouverneurs, quand on nommait les gouverneurs.
Justement, et beaucoup, sur les réseaux sociaux, vous allez sentir que beaucoup se disent, mais si la personne ne maîtrise pas le milieu, comment il va vouloir travailler? Moi, j'ai juste dit que nous sommes dans la géopolitique. Et tout le monde peut travailler au Togo où il veut. Mais pourvu que la personne maîtrise un peu le milieu, comprenne la langue du milieu, et ça, même si on a une langue officielle, du moment où certains pays promeuvent maintenant les langues nationales, il va falloir que la personne maîtrise un peu la langue. Ça, là, ce critère-là devait figurer dans... On ne peut pas convoquer des gens, des villageois, pour un certain problème, le préfet est là, et qu'on fasse à la traduction. C'est pas possible. Et donc, qu'ils en tiennent compte de tout ça. On n'a rien à voir avec le problème du régionalisme, de l'ethnicisme, mais que la personne qui soit nommée maîtrise au moins la langue locale du milieu. Ça, c'est important.
D'accord.
Maintenant, les préfets, on sait qu'il y en a aussi qui sont des militaires, et on sait l'appréhension des Togolais sur un préfet militaire dans ce pays. Il y en a plein. Et on se demande pourquoi un militaire à la tête d'une préfecture, ceux qui ont créé le poste de préfet...
Mais c'est interdit quand même.
Ça doit être interdit en principe. Oui. Dans le principe républicain, ça doit être interdit. Parce que les préfets sont des administrateurs formés à l'ENA, en France. Puis on compte tout de la France. Si vous voulez qu'il y ait des préfets, c'est des administrateurs qui sont formés, qui maîtrisent le travail du préfet, les prérogatives du préfet, le rôle du préfet. Mais les militaires, tout ça, ils ne maîtrisent rien de tout ça. Même s'ils vont se recycler par après, c'est pas ça. Ils mettent toujours la pointe militaire dans leur agissement, dans leur manière de gérer la chose publique. C'est pas ça. En France, les préfets sont formés à l'ENA, l'École nationale d'administration. Et ils ont leur cycle. Ils le font, peut-être c'est 3 ou 5 ans. Et parmi eux, c'est parmi ces administrateurs-là qu'on nomme les préfets. C'est comme ça. Pas un militaire qui viendra créer des problèmes encore. D'autant plus qu'on en souffre déjà avec les stress qu'on a dans ce pays. Donc je ne veux pas citer de nom, mais vous le connaissez.
D'accord. Oui, mais quand on prend la nomination des préfets aujourd'hui, par rapport à la décentralisation, d'aucuns disent que mais ça vient alourdir aussi la machine lors de la décentralisation. Est-ce que vous êtes du même avis?
Non, je pense que la nomination des préfets relève de l'ordre normal des choses. On n'a pas besoin de polémiquer dessus. De toutes les façons, on les verra à l'œuvre, mais on constate juste que au niveau de la machine de la décentralisation, il y a quand même beaucoup de bras. Parce qu'il y a les préfets, les conseils régionaux, les conseils municipaux, les gouverneurs et tout. Il va falloir que, au niveau de l'État, puisse faire preuve de pédagogie, puisque pour que les populations à la base comprennent, voilà, jusqu'où s'arrêtent les prérogatives du maire, jusqu'où s'arrêtent les prérogatives du préfet, jusqu'où s'arrêtent les prérogatives du gouverneur, jusqu'où s'arrêtent les prérogatives des autorités locales, pour que, en termes de préséance et en termes de gouvernance locale, local, chacun puisse véritablement travailler dans son territoire. Parce que vous savez qu'au niveau de l'installation des mairies, il y a eu beaucoup de problèmes. Territoire, délimitation, voilà, c'est moi qui dois faire ci, l'autre doit faire ça. Le problème de la, du principe de légitimité, du principe de légalité, voilà, du contour de l'égalité. Il y a beaucoup de choses. Donc, il va falloir le ministère de la décentralisation, un gros travail, le ministère de l'administration territoriale, un gros travail de pédagogie, de sensibilisation à faire au niveau de toutes ces autorités locales pour que voilà, tout le monde reste dans son couloir. Enfin, on a un nouveau préfet à la préfecture du Golfe, un nouveau préfet également à la préfecture d'Aguanivé. Oui. Bon, comme Michel l'a dit tantôt, bon vent à tout le monde.
D'accord. Oui, Jean Legrand, finalement, quand on prend avec déjà les tests qui sont là, chacun doit savoir sa mission et sa responsabilité.
Oui, bien évidemment. Quand vous êtes préfet, vous connaissez les prérogatives qui accompagnent votre poste. Et il faut savoir que les préfets sont les représentants du pouvoir central dans les préfectures. Ils exercent le contrôle de l'égalité des actes pris par les maires. Parce que les maires, il est vrai, sont élus, mais quand un maire doit prendre un acte, il faut que il y ait un contrôle pour s'assurer que l'acte qui est pris par le maire respecte les textes républicains. Et c'est également ce rôle que les préfets jouent. Tantôt on l'a dit, la nomination des préfets relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. On n'a pas un critère pour savoir qui peut être préfet ici, qui peut être là-bas, préfet de l'autre côté, mais juste que le chef de l'État a jugé bon à un moment donné d'opérer un certain réaménagement au niveau de certaines préfectures. Vous avez au niveau de la préfecture de Thône, le préfet qui a été déplacé, maintenant il va au niveau de la préfecture de Tchadjo, il a duré également au niveau de la préfecture de Thône. Et vous avez également au niveau de la préfecture de la Kosa, le colonel qui a également passé un bon temps à ce niveau. Et il se susurrait que pour permettre une meilleure collaboration avec les gouverneurs qui ont été installés, notamment au niveau de la Kosa, vous savez que c'est un général qui est gouverneur. Et il se susurrait que pour permettre une certaine meilleure collaboration, il fallait essayer de redistribuer les cartes. Mais on n'a pas de confirmation. Cela se susurrait depuis, mais avec le fait qu'on ait changé de préfet au niveau de la COSA, cela confirmerait selon certaines personnes ces dires qui fuitaient dans la masse. Ce qu'on peut dire finalement, c'est bon vent à tous les préfets et qu'ils puissent faire le travail selon les normes.
D'accord.
Et que le pays puisse avancer dans une meilleure décentralisation que nous voulons de tous nos voeux.
Oui, la décentralisation, et ce qui justement sera aussi très important dans cette décentralisation, c'est bien sûr le Sénat. Et nous savons que les sénatoriales, c'est pour le 15 février prochain, le 15 février 2025. Et Michel, vous êtes revenu alors sur la formation et les préparatifs même d'ailleurs de cette sénatoriale. Vous écrivez par rapport surtout au rôle des journalistes. Vous écrivez la RAC rappelle, vous écrivez d'abord élection sénatoriale du 15 février 2025. La RAC rappelle aux médias leur rôle et responsabilité.
Oui, c'était le mardi passé. Je pense que on ne va pas encore revenir sur tout ce qui a été dit à l'hôtel Concorde la dernière fois. C'est la RAC a trouvé bon de rappeler donc aux responsables des médias, et, bref à tous les journalistes, ce qu'ils doivent comprendre et ce qu'ils doivent faire au cours de la campagne et lors de l'élection des sénateurs. Il fallait quand même que qu'on s'approprie ce qui nous revient, en tout cas le rôle que nous devons jouer, parce que parfois il y a des malentendus, il y a des déviances, et il fallait que la HAC prenne ses responsabilités en rappelant les points saillants sur lesquels nous devons nous baser pour couvrir donc non seulement la campagne, mais aussi le jour de vote et puis les résultats, tout ça là. Donc ça a été rappelé aux professionnels des médias le mardi passé. Nous avons trouvé intéressant de revenir sur cette formation parce que nous estimons que nous devons jouer comme on le fait d'habitude. Nous avons nous devons contribuer à la paix sociale. Parce que quand on parle politique, quand on parle élection, vous savez ce qu'on peut attendre dans ce pays-là. Et donc les médias, nous devons être à la première ligne pour faire en sorte qu'il y ait une cohésion sociale après donc cette élection-là.
D'accord. Il faut noter.
Oui.
Il faut des fois, Fanny Assimbé prend des décisions qui sont salutaires. Il faut le rappeler. Et ça donne toujours l'impression qu'il écoute ce que les médias, les débats que les médias font, les journalistes font. Hein. Vous allez voir que le préfet de Tône, c'est celui qui avait pris une décision, n'étant même pas au organe de régulation, pour semer la zizanie par rapport à certains de nos confrères là-bas, leur intimement hors de c'était les émissions. Si vous vous rappelez.
Non, je me souviens.
Ça, c'est le cas de Tône. Ça a été, il a été sauté. Le cas de mon grand frère qui est dans le Gion. Et vous vous rappelez ça aussi, on en a parlé ici, qui prend une décision, il prend un arrêté pour interdire les fêtes traditionnelles. Tu te rappelles de ça?
Non, je me rappelle.
Et qu'il dit, c'est pas une intention formelle, mais il dit que personne ne doit plus fêter et sa fête traditionnelle après Aïzan. Mais Fanny Assimbé, vous allez le voir qu'il est légaliste. C'est-à-dire qu'il vous suit, mais il agit. À certains moments, il agit. Contrairement à ce qu'on lui reproche, il y a certains points, il agit. Quand il écoute, il agit. Parce qu'il sait que on ne va pas l'aimer à 100%. Mais il y a des choses au moins qu'il peut faire. Ça, nous on salue ça.
D'accord.
Et que ceux-là qui sont arrivés là, qu'ils apprennent la leçon de ça.
D'accord.
Et quand ils veulent, ils vont vouloir encore emprunter ça là.
D'accord.
Nous, on sera là.
Merci.
Et l'on aider le président à les envoyer là où il faut les envoyer.
Et donc, par rapport à cette formation des journalistes ou des professionnels des médias, pour ce qui concerne les sénatoriales, est-ce que vous pensez vraiment que notre rôle est prépondérant dans ces sénatoriales?
Oui, la presse continue de jouer son rôle à tous les niveaux, que ce soit du moment où c'est des élections, des consultations qui relèvent de l'agenda politique ou du calendrier politique constitutionnel. Je crois quand même que la presse va jouer son rôle, même si c'est les conseillers régionaux et municipaux qui vont voter. De toutes les façons, c'est un scrutin que couvrira la presse, donc c'est important pour la presse, d'une part, de comprendre les enjeux de ces régionales, et le scrutin, comment ça va se passer et comment les gens seront installés. On sait qu'il y a 61 places pour 82 candidats, je crois. Et il y aura 48 personnes qui seront élues et 20 personnes qui vont être nommées par le chef de l'État. Donc je crois, à mon humble avis, qu'au niveau de la presse, des médias, il y a quand même un rôle à jouer en termes de couverture de ces élections pour savoir exactement de quoi ça retourne et être témoin de l'histoire.
D'accord. Oui, mais Jean Legrand, oui, couvrir ces élections, c'est vrai, ça veut dire que nous allons informer les populations alors sur le déroulement alors de ces élections. Mais est-ce que sous d'autres cieux, tel que ça se passe même d'ailleurs sous d'autres cieux où la presse même a la primeur de l'information concernant même les premiers résultats de ces élections, est-ce que il ne faut pas aussi aller là pour que nous arrivions à avoir un poids comme cela se doit?
Oui, c'est le vœu de plusieurs, mais toi-même tu sais comment notre code électoral est. Et c'est vrai que plusieurs ont émis ce vœu depuis plusieurs années, que cela soit fait comme au Sénégal où vous voyez déjà les médias, dès que les résultats commencent pas à tomber, on annonce les grandes tendances.
Même au Ghana.
Voilà, à côté. Mais bon, le Togo est ce qu'il est pour le moment. Et vu que les acteurs politiques ne sont pas encore tombés d'accord sur cette manière de faire, nous continuons avec l'ancienne corde. Juste, je voudrais rappeler que les sénatoriales, c'est pour la première fois que nous les organisons au Togo. Et il était de bon temps que les médias soient outillés. Parce que les populations également attendent de comprendre en fait qu'est-ce que cette élection va apporter de plus, comment ça va être fait. Mais si nous, les médias, nous ne savons pas comment ça va être fait, qu'est-ce qu'on peut apporter comme information à nos populations, là, il y aura un problème. C'est vrai que ce sont les grands électeurs qui vont voter, mais également la population qui est à la base, qui a élu ces grands électeurs, doit savoir en fait comment le processus se déroule, comment cela va se passer et à la fin quels seront les résultats. Donc c'est dans l'ordre normal des choses que les journalistes ont été formés et comme le président de la HAC l'a dit, il formulait le vœu que nous ayons une couverture responsable et préservions la paix et la cohésion sociale comme nous avons su le faire au cours des récentes élections que nous avons eues.
Mmh. Ambrose, oui, mais ma question demeure et concernant surtout le fait que aujourd'hui, oui, il faut une couverture responsable, mais est-ce que ce ne serait pas encore très important ce rôle de la presse quand la presse doit donner la primeur des résultats?
D'abord, moi, je ne suis pas concerné puisqu'ils ne m'ont pas, ils n'ont pas invité notre organe de presse.
Mais là, nous parlons d'une manière générale.
Donc, je ne sais quoi je vais dire. Monsieur, je ne suis pas concerné.
Non, mais moi, je parle plutôt alors d'un fait, c'est-à-dire que nous, en tant que journalistes, que nous ayons la primeur surtout de l'information concernant les résultats et que nous donnions cela comme cela se passe alors sous d'autres cieux.
Absolument, c'est la norme, c'est la règle. Donc, pour dire qu'il ne peut pas y avoir des élections sans qu'il y ait de couverture médiatique de la part des médias. Mais si l'organe de régulation choisit certains, bon, je ne sais pas sur quels critères ils l'ont choisi. Peut-être qu'ils se disent que nous, on est contre les sénateurs. Et je ne sais pas, hein, ce ne sont que des imaginations que moi j'ai. Et donc, en nous écoutant sur les débats, ils savent que c'est ceux-là qui soutiennent, le Sénat. Ceux-là, surtout la 5e République,
c'est ceux-là qui ne soutiennent pas. C'est une impression.
C'est subjectif. Mais ça paraît comme étant une réalité, puisque nous, personne, la HAC nous invite à des choses. Mais c'était surprenant que De Guardian n'a pas été invité. On ne me dira pas que c'est celui qui invite déjà, qui a oublié la De Guardian. En tout cas, il ne peut pas oublier De Guardian. Mais je ne les envie pas. C'est pourquoi je suis en train de prendre cette piste-là, voir, c'est cette piste-là qui les a conduits à nous ignorer. Tant mieux, ou tant pis. De toutes les façons, nous on est là, qu'on nous invite à couvrir ou pas. Nous, on va couvrir aussi, et à notre manière professionnelle.
D'accord.
On va couvrir.
Alors, on s'intéresse à ce sujet que vous évoquez aussi à la une de votre journal, La Nouvelle Tribune. Vous êtes revenu sur cette question alors du Togo, enfin de l'adhésion alors de la probable adhésion du Togo à l'AES. Ça, c'est tout récemment, bien sûr, à travers cette interview que le ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, a accordé alors à Vox Africa et c'est à travers cette interview quand même que nous avons appris cela. Vous écrivez Togo, AES, la solution, c'est une interrogation.
Oui, est-ce qu'on va parler de probable adhésion? Moi je crois quand même que c'est une déclaration qui vient juste lancer un débat que tout le monde fait depuis quelques jours, sauf que ça ne règle aucun problème actuellement. Vous savez, la solution, le titre, l'interrogation, c'est pour demander véritablement si ça règle, si ce débat, par exemple, qu'on fait à la fin de la journée, ça règle les problèmes que nous avons, les défis que nous avons sur tous les plans, dans plusieurs secteurs. Tout est priorité aujourd'hui, mais quand on lit sur la toile, on écoute des gens et tout, on se dit que mais on a perdu de vue les priorités, parce que là, on se rend compte que y a beaucoup de choses qu'il faut revoir. Maintenant, sur le fond, l'analyse que nous avons fait dans notre papier ce matin, c'est que nous avons donné la parole à un certain nombre de personnes. Vous savez que le positionnement du Togo aujourd'hui dans la CEDEAO ne permet pas de pouvoir prendre un micro, dire que ce n'est pas impossible. Le Togo est membre fondateur de la CEDEAO. Le Togo est président du Parlement de la CEDEAO. Le Togo est vice-président de la commission de la CEDEAO. Le Togo se prépare à abriter les festivités des 50 ans de la CEDEAO en mai 2025. Le Togo abrite les sièges de deux institutions spécialisées de la CEDEAO, la BIDC, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, l'ARA, l'Agence ouest-africaine pour l'agriculture et l'alimentation. Et donc, quand je vous fais la liste, et le Togo a bénéficié de plusieurs missions d'observation électorale de la CEDEAO ici, à des occasions clés, tout le monde le sait, avec des rapports qui sont disponibles. Et donc, on ne peut pas se lever, prendre un micro, dire en 5 secondes que ce n'est pas exclu. Prendre le jeune de l'AES, vous comprenez? Et donc, sur ce plan, sur notre plan, comme on l'a toujours dit, moi je l'ai toujours dit, c'est les réformes de la CEDEAO, ce que les gens peut-être savent ou ne savent pas, le Togo a été missionné par la CEDEAO avec le Sénégal pour ramener les trois pays de l'AES à la maison.
Mais justement, c'est
vous,
ça.
Vous savez oui, ça oui. aussi. Et donc, là,
c'est
aujourd'hui,
c'est lui-même qui revient
donc,
à la
donc aujourd'hui, vous comprenez qu'on ne peut pas se réveiller comme ça pour dire que voilà. C'est pourquoi j'ai dit sur une antenne en début de semaine qu'on attend d'avoir la position officielle du président de la République parce que c'est à lui qui revient la décision. Par rapport à tout ce que je viens d'énumérer, il y a beaucoup de choses, beaucoup de facteurs qui militent. On ne peut pas se lever comme ça pour
sur ce point, est-ce que la voix du professeur Robert Doucet ne représente pas la voix du président de la République?
On peut le dire, oui, parce que c'est quand même le ministre des Affaires étrangères, c'est la vitrine du pays. Mais dans un autre sens, on aurait aimé écouter le président lui-même sur cette question, même s'il a reçu les dirigeants de ces trois pays qui sont venus ici. Le Togo a toujours exprimé sa position de façon pacifique en faisant le lien avec les pays de l'AES en disant, oui, bon, il faut faire preuve de dialogue, de paix, de sécurité, etc. Mais dans un autre sens, par rapport justement à un certain nombre de choses que je viens d'énumérer, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Au niveau de la rédaction de la Nouvelle Tribune, on considère plutôt que c'est une déclaration tape à l'œil, une déclaration juste pour attirer les radars sur les relations qu'il peut y avoir entre le Togo et l'AES. Mais aujourd'hui, fondamentalement, c'est des pays qui se comportent comme vous le savez, qui font beaucoup de choses, mais dire que voilà, notre ministre a relevé que oui, que l'Afrique est fatiguée le théâtre des grandes puissances, vous comprenez? Mais aujourd'hui, quoi qu'on dise, si les gens pensent que le problème de la CEDEAO c'est la France, je suis désolé. Je suis désolé, le problème de la CEDEAO, ce n'est pas la France, ce n'est pas les grandes puissances. Le problème de la CEDEAO, c'est la CEDEAO elle-même. C'est la CEDEAO elle-même. Quand vous avez depuis longtemps des chefs d'État qui sont là, que vous connaissez, qui sont là, qui sont en service, qui sont en fonction, qui ont des institutions qui ne travaillent pas, c'est-à-dire la CEDEAO, plusieurs commissions qui sont là pour le décor, qui ne travaillent pas, et c'est quand il y a... On tire quelque part, qu'on envoie une mission, on ne fait pas de prévention de conflit, on n'a rien, c'est trop facile de jeter la pierre aux grandes puissances. Quand vous avez un siège de l'Union africaine qui est construit par une grande puissance, avec un budget à 80% financé par une autre grande puissance, vous voulez que l'Afrique s'affranchisse quand? Donc, à un moment donné, vous ne pouvez pas rejeter la faute aux autres. D'abord, vous-même, qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, oui, il y a des coopérants militaires de grande puissance dans pratiquement tous les pays. Les pays de l'AES ont dit non, nous, on ne veut pas. On veut rester ceci, mais les gens disent que la France, oui, on ne veut pas de la France, mais ils sont allés vers la Russie. La Russie, c'est pas un pays africain. C'est du même au pareil, vous comprenez? Même si les relations peuvent ne pas être les mêmes, si les Africains veulent ça, parce qu'aujourd'hui, il y a un discours de panafricanisme, de populisme qui emballe tout le monde et tout, mais au fond, on voit comment les choses se passent. Quand les trois pays, ils disent on veut pas de la France, mais c'est pas eux-mêmes qui s'assument. Ils ont aussi leur collaboration avec la Russie, avec pas plus tard que cette semaine, l'African Corps a débarqué au Mali, à Bamako, avec des chars, de l'armement et tout. C'est pas un pays africain, ils viennent pas d'un pays africain. Donc, le Niger et tout le reste, les mines d'or et tout, qu'on est en train de remettre, la Wagner qu'on fait venir, c'est pas français, ça. C'est pas être d'une puissance africaine. Donc, il faut pas qu'on se voile la face. Et à un moment donné, soyons réalistes. D'accord. Regardons-nous en face. Posons le débat. Si nous voulons nous inscrire dans une coopération sud-sud pour réformer la CEDEAO, on a toujours dit, réformons la CEDEAO. C'est important. Moi, j'aurais aimé que les trois pays qui sont de l'AES puissent rester dans la CEDEAO et que ces trois chefs d'État puissent contribuer à faire des réformes au niveau de la CEDEAO. Parce qu'on a parlé de la force commune pour lutter contre le terrorisme au niveau de la CEDEAO. Ça n'a jamais été fait. Mais les pays de l'AES viennent de mettre 5000 hommes pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Oui, voilà. Mais la CEDEAO, j'aurais aimé que les trois puissent rester dans la CEDEAO pour amener leurs pairs à pouvoir implémenter des actions, des initiatives efficaces. Parce que trois personnes peuvent lutter contre un problème. Mais si vous êtes 10, 15, 20, c'est quand même mieux.
D'accord. Oui, Michel, quelle est l'analyse que vous faites alors de cette déclaration du professeur Robert Doucet?
Tu as bien dit des déclarations, non? Bon, c'est des déclarations.
C'est des déclarations, mais que nous ne devons pas prendre à la légère quand même.
Bon, pourquoi? Moi, vous savez, ce débat-là, parfois quand j'arrive quelque part, les gens parlent de ça. Je les regarde avec des yeux ronds. Parce que bon, je ne sais pas ce que nous avons dedans. Hein, parce que c'est un débat qui ne nous rapporte rien, franchement. Parlons, c'est un débat. Le professeur Robert, il a trouvé une occasion pour vraiment bien parler. Mais bon, nous les Togolais, qu'est-ce que nous avons dedans? Parce que fondamentalement, il a dit quelque part, qu'il a répondu à la question d'un confrère, que ce n'est pas impossible. Ça, à un niveau donné, je ne sais pas, c'est la voix du Togo, ou bien c'est la voix de Robert Doucet.
Et c'est le ministre togolais qui parlait.
Oui, mais quand on sait comment la diplomatie s'organise, vous pouvez être ministre des Affaires étrangères, mais il peut avoir un conseiller diplomatique à la présidente plus puissant que vous. Parce que ce dossier-là, à l'heure où nous parlons, ce dossier-là ne nous rapporte rien. Il faut qu'on se le dise. Ça nous rapporte quoi? Aujourd'hui, Elon disait tantôt que mais le Togo, la position du Togo à la CEDEAO, c'est une position vraiment, c'est une position très, très enviable. Le Togo, si les autres chefs d'État à un moment donné ont sollicité les services du chef de l'État pour aller prendre langue avec les trois pays sahéliens, c'est qu'on sait que vraiment il a une bonne position et il a une bonne position dans la CEDEAO. Mais nous dire que bon, aller aujourd'hui dans l'ASN, puisque certains même disent que le Togo est déjà dedans, moi je ne sais pas. Aller dans l'ASN n'est pas impossible, je ne sais pas. Et il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a dit que, bon, s'il fallait interroger 70% des Togolais, bon, qu'est-ce que nous on a dedans? Quand le Togo allait à Commonwealth Force, on nous a demandé. Le Togo a vu que c'est bon, qu'on peut aller à Commonwealth Force, et ils sont allés. Est-ce qu'on a demandé l'avis des Togolais? Mais pourquoi c'est l'ASI, il crée une statistique pour l'ASI, dit que 70% des Togolais? Non. Si moi m'avait demandé, s'il m'avait demandé, moi j'ai une réponse à lui donner.
Tu sais quoi la réponse?
Non, je ne sais pas, il nous amène là-bas pour faire quoi? Parce que, vous savez, si nous voulons nous développer, il suffit seulement d'être sérieux avec nous-mêmes. De respecter les lois que nous nous donnons. C'est tout. Sinon, l'AS aujourd'hui, c'est je me dis que c'est vrai, c'est des présidents qui sont venus au pouvoir dans des circonstances que tout le monde connaît et donc ils sont obligés de jouer une musique pour intéresser leur population et tout ça là. Mais au finish, vous allez voir, si Dieu nous prête vie, on ne chalote pas, hein, vous allez voir que ça là, ça va finir un jour, hein, un jour ou l'autre, ça va finir parce que l'environnement politique international aujourd'hui ne nous permet pas de prendre n'importe quelle position. Est-ce que ça dit, si nous voulons aller à l'AS, les ennemis de l'AS, c'est nos ennemis? Ils vont devenir nos ennemis? Parce que c'est après tout, tu sais, les dirigeants, ils sont là, mais la population, nous, s'il y a des trucs, ça va retomber sur les populations aussi. Parce qu'il faut faire attention. Moi, je trouve que le débat là, c'est débat d'un niveau donné. Ça ne nous intéresse pas parce que le Togolais aujourd'hui, ce n'est pas l'AS qui l'intéresse.
D'accord. Okay. Voilà. Oui, d'accord. Abras, déjà, est-ce que vous arrivez à comprendre la position du Togo sur cette question?
Oui, je crois déjà avoir évacué cette question la dernière fois lors d'une émission sur une radio étrangère en disant que le Togo a quitté du régime de l'ADEMA le temps 8 ans et le 20 ans de l'ADEMA, mais tant qu'il y a les règles communautaires qui exigent la limitation des mandats et que nos dirigeants ne veulent pas obtempérer, ne veulent pas respecter, il faut trouver un canal, il faut trouver une passerelle, c'est la 5e République. Et ça donne l'impression que cette 5e République même ne rassure plus, puisque on a vendu à la place du chat le petit chien. Chez nous, on dit, au moins donné, c'est servi les Kevimo. Ça y est, il ne faut jamais acheter le chien à la place du chat. Ceux qui sont venus vendre la nouvelle constitution pour le régime parlementaire, eux, ils ont déjà pris l'argent, ils ont fui, ils ont quitté. Maintenant, c'est des grands frères qui ont des problèmes actuellement. Donc, comme ça ne rassure plus, on a sauté le verrou du président de la République que les Togolais ne verront jamais à choisir autant pour le suffrage universel. Ils veulent maintenant se réfugier dans l'AES. Tu sais pourquoi? Ils veulent se réfugier pour se protéger. Parce que ces gens-là ont une charte. Et la charte les protège quand on attaque un pays. Le Togo n'est pas en sécurité politique et électorale à côté du Ghana, qui vient de faire encore l'alternance. À côté du Bénin, Talon dit qu'il va partir, même si le FA dit autre chose. Maintenant, ceux-là, c'est les régimes militaires qui sont venus remplacer des vassaux des colons. Certes, il y a eu des alternances, mais c'est toujours manipulé par celui dont vous savez, les Français, depuis là. Maintenant, ils sont venus rétablir la vérité, rétablir un État digne de ce nom, qui se déconnecte de tout ce qui est colon, les accords coloniaux et tout ça. Est-ce que le Togo est prêt? Qui dit, qui veut rentrer dans l'Ouest? Est-ce qu'ils sont prêts à respecter la charte des trois pays-là? Eux, ils aiment leur peuple. Ici, on ne nous aime pas. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Vous, les gens ont repris toutes leurs mines. Est-ce que la SNPT, le site du phosphate, ça ne génère aucun franc pour le trésor public togolais? Ils sont là. Qui sont là? C'est les Israéliens, on dit que c'est les Israéliens. Il y a plein de sociétés françaises ici. L'accord colonial qui nous lie au Togo n'est pas coupé. Les instituteurs français sont toujours là au sein de nos militaires. Vous voulez rentrer dans l'AES? Mais encore faudra-t-il qu'ils soient prêts à respecter les règles qui sont là-bas. Au lieu de chercher seulement à se réfugier là-bas et fuir tout ce qui est élection transparente et tout ce qui est règles démocratiques.
D'accord.
Donc, ils sont maintenant pris entre l'enclume et le marteau. Entre la CDAO et le peuple togolais qui veut l'alternance et le changement. La CDAO qui veut à tout prix imposer les règles de limitation des mandats. Ils sont réfugiés dans la 5e République, dans un régime parlementaire. Et comme si cela ne suffisait pas, ils souhaitent aller se réfugier dans l'AOS. Alors que là-bas aussi, tôt ou tard, les élections transparentes reviendront là-bas.
D'accord. Alors, Jean, le journal Le Correcteur a écrit de la CDAO à l'AES, le caméléonisme politique décontracté du régime togolais. Alors, et quand on prend cette position du Togo, c'est vrai que pour le moment, ce n'est pas encore clair, mais est-ce que vous arrivez à comprendre cette position alors du Togo?
Cette position du Togo, moi, elle ne m'étonne pas d'une part. Je ne suis pas dubitatif, vous savez. Sur la question de l'opportunité aujourd'hui d'entrer dans l'AES ou pas, Elom et Michel ont été, on ne peut plus clair dessus, sur les réalités que nous vivons en fait. Et c'est vrai que le Togo a une position enviable au niveau de la CDAO. Le Togo aujourd'hui est celui qui essaie de faire le pont entre la CDAO et puis l'AES. Mais quand vous écoutez le ministre Robert Doucet parler, Robert Doucet c'est qui? En fait, c'est une éminence grise du pouvoir de Lomé. Il ne faut pas l'oublier. C'est monsieur diplomatie de Fort Gnassingbé. Et une interview de ce genre est fondamentalement bien préparée. Parce que c'est une chaîne internationale. On ne sort pas des mots juste par émotion.
Et l'interview a été réalisée même un mois avant sa diffusion.
Voilà. Il faut analyser tout le timing et beaucoup de choses. Et si vous suivez aujourd'hui dans beaucoup de bruits de couloir, on parle de impérialisme, il faut contrer l'impérialisme, et beaucoup d'autres choses qui circulent. Moi, je comprends en fait en ce moment que probablement le Togo est en train de faire une surenchère en fait. Parce que aujourd'hui le Togo a une position viable. Mais il se dit, aujourd'hui, je suis avec vous, mais si vous ne savez pas faire, à tout moment, je peux claquer la porte. Parce que le Togo a gardé de meilleures relations avec les pays de l'AES aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand aujourd'hui le Togo frappe à la porte de tous ces pays, que ce soit au Niger, au Mali ou au Burkina, on est bien reçu. Mais l'autre question qui se pose, est-ce que le Togo, si aujourd'hui frappe à la porte de l'AES, est-ce que l'AES, même si le Togo lui a fait beaucoup de facilité, ouvrira la porte, l'AES ouvrira la porte au Togo? C'est une autre question, une autre paire de manches. Parce que quoi? Ces pays ont une certaine idéologie que nous, notre pays, n'a pas encore. Ces pays ont rompu les accords coloniaux. Mais aujourd'hui, vous voyez que nous, notre pays, le Togo, a de bons rapports avec la métropole. Et ils sont bien basés dans notre pays. Les bases militaires, on a beaucoup de militaires français, des instructeurs dans nos pays. Fondamentalement, au niveau des idéologies, il y a un problème. Mais est-ce que l'AES, qui aujourd'hui veut rompre avec les partenaires coloniaux, pour mieux discuter avec notre partenaire, va accepter que nous, notre pays qui est le Togo, qui a de bonnes relations, entre en concubinage dans ce partenariat? C'est la question qui reste posée. Parce que, comprenez qu'ils ont quitté la CDAO parce qu'ils trouvaient que certains pays de la CDAO étaient des traîtres et traitaient toujours avec la mère colonie.
Mais si nous, notre pays continue d'entretenir de bonnes relations avec la France, je ne crois pas que le projet va marcher, à moins que notre pays s'inscrive dans la même dynamique, il faut le préciser, la même dynamique que ces trois pays-là qui ont pris une position depuis quelques années.
Et que quand vous parlez alors de même dynamique, vous voulez parler de l'idéologie.
L'idéologie.
D'accord.
L'idéologie.
Merci beaucoup, chers confrères. Nous allons arrêter là pour ce qui concerne le débat et donner la parole à nos auditeurs. Ils s'impatientent aussi à rentrer en ligne pour s'intéresser, bien sûr, à ce débat avec nous. Nous allons leur donner la parole sur le 90, 86, 35, 35 ou 91, 36, 63, 75. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler sur le 90 86 35 35 91 36 63 75 et nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Nous avons notre premier auditeur en ligne. Allô?
Oui, allô?
Bonjour.
Oui, bonjour monsieur.
Comment vous allez?
Je vais bien.
Votre nom c'est?
C'est monsieur Nick.
Monsieur Nick?
Oui.
Allez-y.
Bon, je veux intervenir par rapport à certains qui disent que notre prochain viable est sur le plan quoi. Bon, un viable à l'international, on parle que du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du développement, tout ça là. Quand on dit quelque chose d'inviable, c'est que l'environnement est propice pour le développement. Sinon, il ne faut pas qu'on se mette dans des résolutions qui ne nous apportent rien. Non. Quand il parle de là, est-ce qu'on va... Le Togo va s'adhérer à l'Est. Pour chercher quoi? Pour chercher quoi? Puisque c'est des pays que je cherche. Puisqu'ici, ils n'ont pas encore trouvé une porte de sortie. Le problème qu'ils chassent, ils sont toujours avec ce problème. Et bon, nous, on va aller chercher quoi là-bas? Il ne faut pas que le ministre vienne dire des choses qui vont lui porter préjudice quand même. Merci, bonne émission.
Merci beaucoup, monsieur Nick, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse. Allô?
Allô, bonjour, Canal FM.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Oui, c'est Natema.
Oui, Natema. Oui. Ça, allez-y.
Et ce que Robert Doucet a dit là, il dit une bonne pratique, son 10% de la population. Mais c'est là-bas, il a trouvé ça où. Maintenant, les populations réclament l'alternance. Ces populations souffrent jour et nuit. Quelle chose de l'alternance là? Il n'a pas trouvé ça. Pourquoi ils font des choses comme ça? Ça leur donne quoi? La violence là, ça leur donne quoi? Merci, bonne émission.
Merci notamment pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô, allô bonjour.
Oui, bonjour, Didier.
Oui, Didier, comment vous allez?
Ça va bien.
D'accord, allez-y.
Bon, ami, ça fait longtemps.
Oui, Michel. Allô? Oui, Didier, vous savez.
Bonjour, Tadja.
Oui, bonjour.
Ça fait un bout de temps.
Oui.
Bon, bonne année d'abord, monsieur Tadja. Bon, moi, je pense que. Pour l'histoire de l'arrêt là, le voleur, avant qu'il ne... ce n'est qu'une petite erreur que le voleur fait avant qu'on l'arrête. C'est l'erreur que le Togo vient de faire. Parce que M. Dussé là, quand il voulait modifier la constitution, est-ce qu'il a demandé notre avis? Et maintenant, il vient dire si on demande au Togo. Et ouais, comment le pays là fonctionne? Le Togo est en train de faire du chantage. Le pays qui a le plus fait du mal à la CEDEAO a rendu la CED dans cette position, c'est le Togo. Les élections frauduleuses, les élections violentes, à la mode du président, ils ont essayé d'imposer. C'est eux qui ont imposé le président au Togo. Maintenant, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Moi, dans mon fond de vue, ils sont en train de faire un chantage. Pour ce qui va se passer, si vous critiquez mes éléphants qui vont arriver, je quitte je vais dans la RS. Est-ce que la RS est prête à les recevoir? Même au niveau de la RS, il va arriver au jour où on va parler des élections. Le populisme, là, ça finit un jour. Donc le Togo, il est en train de faire une comédie. Et là, ils ne sont même pas prêts à les recevoir. Ils sont caressés là, ils sont. Merci.
Merci Didier pour votre intervention. Bonjour le plateau. Les trois pays qui forment l'AES à part le terrorisme comme problème vivent bien. Et, mais ici au Togo, c'est à peine on arrive à se nourrir une fois par jour. Alors quand le Togolais arrivera à manger deux fois et trois fois par jour, il aura la tête à réfléchir au sujet de l'AES. Sinon, pour le moment, cela n'est pas un sujet prioritaire pour le Togolais. C'est Henri depuis Adido Gomé. Allô?
Bonjour Pascal.
Bonjour, comment vous allez Patrick?
Ça va bien, par sa grâce et vous.
Dieu merci.
Je salue les autres confrères qui sont là-bas.
Oui, allez-y.
Bon, dans un premier temps, je voulais rebondir sur la question de la nomination des préfets dont vous avez fait cas. Et M. Ambroise semblait dire que je suis tout à fait d'accord avec lui. Hein. Et normalement, les préfets doivent passer par le Code national de l'administration. C'est très bon. Et ils dénonçaient aussi la nomination de certains officiers. Je voulais dire, puisque, comme on a l'habitude de le dire, cette émission est une émission du donner, du recevoir. Et sur ce, je crois que on doit aller quand même aux informations pour voir, parce que j'ai un cas présentement. Quand il disait que ces officiers-là devaient passer par là, qu'est-ce qui prouve que je ne prends pas la défense de qui que ce soit. Qu'est-ce qui prouve que ces officiers n'ont pas fait l'école-là? J'ai présentement un petit frère. C'est un commandant. Il vient de sortir de l'école nationale d'administration. C'est pour dire à M. Ambroise que peut-être que, parce que moi je ne sais pas si ces officiers qui sont nommés on fait là-bas ou pas. Donc, on doit aller à l'information pour voir. C'est pour dire que actuellement, il y a bon nombre de ces officiers qui passent par l'École nationale d'administration. Ils sont toujours là. Ils sont plein près là-bas. Ceux qu'on vient de nommer sont passés par là. Donc, j'ai voulu apporter cet
exemple. D'accord. Merci. Merci Patrick. 90 86 35 35 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la presse. Bonjour Pascal, j'aimerais... Allô?
Allô.
Madame ici, bonjour.
Bonjour. T'es rentré comme un cheveu de la soupe. Hein. C'est écrit comme ça.
Oui, allez-y.
Et puis voilà. Donc,
vous êtes à l'antenne, allez-y.
On a nommé les préfets soldatesques. Oui. Comme Ambroise l'avait dit, je ne vous ai pas suivi. Hein. Il faut aller à l'ENA avant. Mais on a militarisé le Togo. Les soldats sont partout, partout, dans les chutes, dans les marchés, partout quoi. C'est pas bon dans une république. Si bien que nous les civils, on n'a rien à faire, on n'a que ça, Pascal, que ça à nous plumer en téléphone, pour téléphoner pour rien. Voilà, on n'a que ça, les civils n'ont que ça à faire. Et pour ce faire, on peut dire que tout le monde n'a qu'à faire son service militaire auquel on a droit dans toute constitution pour pouvoir travailler vite décemment. C'est pas bon dans une république qu'on va phagocyter et militariser à outrance. Et pour l'histoire de l'AES, là, qu'on pompe avec, qui est devenu notre tasse de café. D'abord, le nom sonne faux. Et puis, c'est quoi même? On a dit, il est question de quoi? Les gens ont dépassé les 5 ans. Un mandat de 5 ans, ils l'ont dépassé. Maintenant, ça gesticule partout. On déplume la constitution jusqu'à la monarchiser, tout ça là. On veut aller là-bas. Pourquoi faire? Parce que là-bas, c'est des hors la loi. Ils n'ont pas respecté les lois là-bas. Et puis, je vais dire, le Tiani là, renseignez-vous pour savoir s'il n'est pas dans l'arène présidentielle depuis 42 ans, au moins. Il traîne là-bas depuis, il a connu les présidents précédents. Hein, il s'agit de ça. Il est dans l'arène depuis. Et c'est quoi même?
D'accord, merci beaucoup madame Messi pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 115, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour Didier.
C'est Didier qui revient.
Oui, Didier qui revient, allez-y.
Allô, oui. Moi je pense pour la nomination des préfets là, il y a un problème anormal qui se passe. Bon, chaque fois qu'on vient, on dit que c'est un problème sensible. Pourquoi ça faut un préfet militaire pour Kara? Il faut pour ne pas essayer de pacifier, de nommer un préfet normal. Regarde, depuis le temps de Gazaro, les gens qui sont un peu âgés, là, ils vont comprendre. On a nommé une dame, les gens sont soulevés qu'on ne doit pas nommer la dame.
il y a quoi. Ben, les plus âgés comme moi et Tadej, je peux comprendre ce que je dis. Mais c'est un problème qu'on est créé sur un autre problème. Chaque fois, militaire pour Kara, c'est comme Kara un statut spécial. Kara est comme les autres villes du Togo. Essayez de normaliser cette situation pour ne pas créer des problèmes aux futurs dirigeants de la ville. Lorsque quelqu'un sera là, ben, c'est nommer un civil, c'est des problèmes. C'est maintenant qu'on doit essayer de régler ce problème. Ah, ou bien j'ai menti, c'est-à-dire.
Merci beaucoup, Didier, pour votre dernier passage, bien sûr. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Bonjour, Pascal. J'aimerais dire à Elom que la Russie ne vient pas pilier en tant que pilier à l'AES, pardon, à moins que vous refusiez alors de voir les réalisations de l'AES avec la Russie. Or, avec la France, c'est du gaspillage des ressources pendant 60 ans en faveur de Paris. Il a suffi alors que le Niger stoppe de fournit son uranium à la France que le délestage a surgi. Donc le partenariat entre les pays de l'AES et la Russie et le partenariat entre la France et la CEDEAO, c'est le jour et la nuit avec la France qui se comporte en maître vis-à-vis de la CEDEAO avec une monnaie de destruction économique des pays africains. C'est bien sûr la réaction d'un auditeur. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur Nyamavo.
C'est Nyamavo, chef.
Allez-y.
Et vous allez voir sur les réseaux sociaux, ou bien c'est moi seul qui le remarque depuis la déclaration du ministre des Affaires étrangères. Les gens ont transformé la Forum de la paix à un monstre qui est à la chasse de je ne sais pas quoi. Les deux lions qui ont commencé par fuir, que ça ne va pas. Et le seul critère qui peut faire admettre le Togo à la haine, c'est que le Togo accepte qu'ils ont fait coup d'État à leur peuple, en ne respectant pas la Constitution. Là, c'est valable. Ils seront rapidement accueillis par l'AES. Sinon, si le Togo rejoint les chefs d'État qui ont fait le coup d'État, là, ils demandent à leur armée de leur faire coup d'État, et on ne sait pas. C'est-à-dire, on ne comprend pas quoi. On n'a même pas expliqué ça. Comment on peut quitter comme ça, rentrer à l'AES? Or, c'est dans la CEDEAO qu'on vous a demandé la limitation du mandat à deux. Vous avez refusé. Tout ce que la CEDEAO vous demande, vous ne le faites pas. Je vous disais hier que il y a un procureur de la République du Bénin qui répondait à ces questions-là sur RFI. Mais pourquoi? On punit les Togolais, or que les pays de l'AES vendent le gaz à 2000 francs. Ah bon, s'ils vont là-bas et puis ils vont nous vendre le gaz à 2000 francs, ah, c'est bon. Vous voyez, depuis que le Togo a dit qu'il organise les élections sur fonds propres, ils se voient dos nu, ils n'ont plus de l'argent. Sinon, ils allaient consulter le peuple. Le peuple est derrière moi, pourquoi ne pas le consulter? C'est la voie démocratique, ça. Ne pas le faire, c'est qu'on est en pénurie d'argent. On est incapable de demander au peuple de donner sa voix. Et du coup, il faut passer par la force, comme l'avait dit le Premier ministre. On va diriger ce pays-là autrement. Bonne émission.
D'accord, merci beaucoup, monsieur Nyamavo. Et nous allons recevoir notre dernier auditeur pour le compte alors de cette émission. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Nous attendons juste notre dernier auditeur pour le compte alors de cette émission, alors de ce jour. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, chef.
C'est monsieur?
C'est Sylvain.
Ah, Sylvain.
Oui.
Allez-y.
Bon, je suis parfaitement d'accord avec Michel. Est-ce que c'est notre priorité? Les règles qui régissent cette organisation-là, l'AES, là, est-ce que nous, on est prêts? Est-ce que là-bas, c'est une limitation de mandat ou de mandat présent à vie? On ne comprend pas. Est-ce que le Mali, le Burkina, le Niger, eux aussi ils ont un ministre des Affaires étrangères, on n'a qu'à demander, interviewer des messieurs pouvoir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas notre priorité, effectivement, monsieur le journaliste. On a d'autres choses à proposer à haute volée. Par là où est-ce, qu'est-ce qu'on va aller foutre là-bas? Franchement, je suis désolé quand même.
D'accord. Et merci Sylvain. Et je lis cette dernière réaction avant quand même qu'on nous fasse le tour de table et mettre fin à l'émission. Bonjour le club, c'est Modeste de Paris et c'est préfet que le président a sauté ne doit pas trop vite alors nous réjouit car ça va nous surprendre alors de les voir à la veille alors du 15 février au Sénat parce qu'on est au Togo et on sait comment s'est passé l'histoire d'Ayasor que nous avons tous crié qu'il a trop duré au trésor et lorsqu'on l'a finalement sauté c'est à la présidence qu'il est parti tomber et c'est une réaction alors de Modeste et je pense bien sûr qu'il voulait parler alors du ministre Ayasor, l'ancien ministre des finances bien sûr de l'économie et des finances. Alors cher confrère, nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table. Alors Michel, vous allez écouter les uns les autres.
Je voulais répondre à Didier. Moi qui nomme les préfets. Hein. C'est pas moi. Je constate aussi, comme lui, qu'on a nommé les préfets. Et puis quand il parle de Cara, où il dit que pourquoi c'est n'est pas. Si vous prenez la préfecture de Kerenkuka ou un préfet militaire a fait plus de 22-23 ans.
C'est mon bien,
ouais, et donc ça n'a gêné personne et il a
ça a gêné beaucoup. On a critiqué ici.
Mais en tout cas, bon, si ça vous a gêné, celui qui nomme, lui, ça ne l'a pas gêné. Parce que lui, il a d'autres résultats que ce que vous avez. Donc ça ne c'est pas ça le problème. Moi, ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas Cara seul qui a le monopole de nomination des préfets militaires. Il y en avait ailleurs, avant même que le colonel Bakali ne vienne à la tête de la préfecture de la COSA. Actuellement, c'est un autre.
On se souvient même aussi de l'Esmono.
Et le monsieur qui a dit tout à l'heure que les militaires, les officiers, ils sortent de l'ENA. Hein, il y a des administrateurs pleins dans nos officiers. Donc, le fait de les nommer, en tout cas, militairement, ça ne me gêne. À la tête des préfectures, ça ne me gêne pas. C'est de travailler en parfaite harmonie avec la population, il n'y a pas de souci pour cela.
D'accord. Hello?
Bon, vous savez, ce débat avec l'AES, ça cristallise les passions, ça déchaîne les opinions par rapport à ce que les gens peuvent dire ici et là, mais en fait, ça ne règle aucun problème. C'est ça le souci. Comme les uns les autres l'ont dit, ça ne règle aucun problème. Et il va falloir que, oui, les gens envient véritablement que les choses puissent, du jour au lendemain. Mais c'est vrai que quand on compare certains prix, certains produits dans les pays de l'AES au Togo, il y a le jour et la nuit. Donc, il y a des gens veulent aussi, parce que, si on dit, on veut rentrer dans l'AES, oui, 70%. Mais ce que j'avais dit précisément, c'est que, il faut pas aussi que, sur le plan politique, qu'on nous avance des chiffres qui ne sont pas maîtrisés. Parce que, nous, en journalisme, quand on s'hasarde à dire, par exemple, 70% de la population fait ceci, on va vous dire, vous avez les preuves, vous avez fait ceci, on va vous inviter à la HAC, on va vous inviter à ceci, on va vous faire une mise en demeure. Il faudrait que, lors des interviews, qu'on nous évite aussi d'avancer des chiffres, quoi. Vous comprenez? Et s'il n'y a pas une enquête qui le prouve, s'il n'y a pas des statistiques claires, parce que nous, en matière de journalisme, on parle avec des preuves. Vous comprenez? On peut pas parler. C'est vrai qu'en politique, on ne parle pas avec des preuves, hein. La politique, c'est une science qui est cyclique. Donc, c'est le plus important, c'est de pouvoir bavarder. Donc, oui, c'est un débat qui malheureusement, comme vous le constatez, occupe beaucoup de personnes, mais on constate que à la fin de la journée, on a nos problèmes, nos factures sur la table, le courant qui continue d'être coupé, elle est coupée, hier on a coupé de 15h à 18h, et voilà, la presse, le problème qu'on a au niveau de la presse, la pauvreté, la lutte contre le terrorisme, à la fin de la journée, on a tous ces problèmes sur le tapis, quoi, et vous dormez avec votre oreille, mais vous avez les problèmes qui sont en face de vous. Donc, Togo AES, pardon de grâce, épargnez-nous, ce débat pour nous.
D'accord. Oui, Jean. Vous savez, quand j'écoute les commentaires sur les... Ça me fait sourire, en fait, parce que... Vous rappelez, quand les bruits de couloir avaient commencé, disant qu'il y aurait 5e République, les gens tapagés, non, il n'y aura pas ça, on était là, on écoutait calmement. Les gens disent, non, il faut qu'on nous laisse, pourquoi on va aller vers cette 5e République. On était tous ici, on a été témoins. On a participé jusqu'à la fin. Le processus est bientôt bouclé. Moi, j'ai dit, AES ou pas, nous attendons de voir les semaines, les mois venir nous indifférents.
Mais moi, j'ai dit une chose, ce que le pouvoir de Lomé décidera, il le fera. Et nous verrons bien si est-ce qu'il est bien pour les Togolais ou pas.
D'accord. Alors, je vais enchaîner. Ce que le pouvoir de Lomé décidera, il le fera. Nous, on ne refuse même pas. L'essentiel, c'est que les objectifs politiques soient atteints. Et que quand on rentre dans l'AES, là, si c'est le peuple togolais qui va en gagnant, diminue le gaz à 2000, et que les accords coloniaux soient coupés, si le Togo accepte rentrer dans ça et observer, et être en uniformité avec la charte, mais nous, on va applaudir. C'est le peuple togolais qui va en gagner. Mais s'il pense rentrer dedans pour se protéger et que les autres peuples soient bien nantis et que nous, on souffre ici, là, il se trompe. Il se trompe gravement. Et je salue l'auditeur qui nous a fait rire ici, là, qui vient d'appeler, pour dire qu'en réalité, il a dit la vérité, parce qu'on ne peut pas nous dire que 70% des Togolais souhaitent rentrer dans l'AES, alors qu'on n'a aucune statistique qui le prouve, alors que les mêmes 70% voudraient que le fonds Gnassibé aussi dégage un peu pour que d'autres personnes viennent. C'est ça. Évidemment, on va me demander, tu as trouvé ce chiffre là-haut. Je vais demander d'abord à Ducé, là où il a trouvé le chiffre.
Merci Ambroise Konzo d'être passé alors dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal des Guadians. Merci Michel Yao Tzadza, directeur de publication du journal Roi les Vainqueurs et analyste politique aussi. Et merci Elom Kossi Atisogbe, directeur de publication du journal La Nouvelle Tribune. Merci à mon cher ami Jean Le Grand Polorini, directeur de publication du journal Canal D. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés aussi pour votre participation, votre contribution à cette émission à travers vos réflexions. Merci à vous. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakouti a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Ossou. Je vous retrouve demain vendredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.